BX1+, Radio de Bruxelles.
Radio de Bruxelles.
Podcast Plus.
Toute l'actu du podcast
sur BX1+.
Bonjour, nous sommes avec Pierre-Étienne Wilbert et Delphine Proutot. Tous les deux sont avec nous pour parler de podcast, d'un podcast qui s'appelle Global 404. Mais tout d'abord, dites-nous un peu qui vous êtes. On va commencer par vous, Delphine. Delphine Proutot, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a amené au podcast?
Alors, moi, c'est une grande nouveauté pour moi, le podcast, parce que avant tout, je suis productrice. J'accompagne les artistes à développer des projets. Ça fait une dizaine d'années, notamment en France et en Suisse. J'ai très vite été attirée de toute façon par l'art, de manière générale, et par l'envie. J'ai un profil plutôt de communicante, j'aime les chiffres, j'ai fait une formation en gestion à la base, donc j'avais envie de mettre mes compétences très vite de gestionnaire et de communicante au service des artistes. Mais en fait, c'est contagieux à force de fréquenter le monde artistique et puis d'être dans un univers qui développe l'imaginaire, où on est sans cesse dans des processus de création, où on participe en fait en tant que producteur, on participe énormément aux discussions de création. Petit à petit, on m'a invité à prendre part dans le processus de création et il se trouve que dans Global 404, on m'a proposé donc de jouer une partition, donc j'ai un rôle. Et puis j'ai eu cette casquette aussi dans Global 404, on va dire de communicante et de productrice, qui est ma casquette principale. Et il se trouve qu'à la base, quand même, notre domaine artistique de cœur, c'est le théâtre. C'est vraiment le jeu d'acteur, c'est vraiment la possibilité de raconter une histoire et de l'offrir à un public.
Et vous, Pierre-Étienne Wilbert, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans le podcast? Parce qu'au départ, vous n'êtes pas tellement podcast, vous êtes tout à fait dans d'autres domaines.
Alors, effectivement, moi, à l'origine, ma formation est celle d'acteur et de metteur en scène. J'ai créé une compagnie il y a déjà presque 20 ans maintenant, qui est basée en France, et j'ai écrit des pièces de théâtre. Mon univers, c'est vraiment l'écriture de théâtre et l'écriture de scénarios dans un second temps, audiovisuel pour le coup. Donc, pour ma part, c'est vraiment l'écriture qui est au travers de toute mon existence, puisque je suis également photographe. J'écris aussi avec les images. C'est pour moi un élément essentiel de mon existence.
Donc, et c'est très loin du podcast, tout ça.
Ah oui, parce que c'est l'image. Mais c'est très proche à un niveau quand même, c'est que le théâtre a cette proximité avec le podcast. Puisque le théâtre a cette force de suggestion par les mots. On peut avoir des mises en scène de théâtre qui vont être très impressionnantes par leur scénographie, ça peut être une forme de théâtre, mais il y a aussi dans une épure quelque chose d'incroyable avec le théâtre, dans le fait d'avoir juste les mots pour suggérer un imaginaire, pour se dire, regarde là-bas, il y a une forêt, tu vois cette forêt, et par le langage, on peut complètement l'imaginer. Et là, pour le coup, on retrouve le podcast. Le podcast a cette force-là du langage, et il la ravit.
Alors là, vous êtes à Bruxelles, tous les deux à Forêt, mais vous n'êtes pas originaire de Forêt, je crois. Pierre-Étienne Wilbert, vous étiez beaucoup dans l'Est de la France. Je ne sais pas si vous êtes originaire de cette région-là.
Tout à fait. Je suis un Strasbourgeois qui est tombé amoureux de Bruxelles. Après passer plusieurs années en France, à Strasbourg, mais aussi entre Strasbourg, Paris ou le Sud-Ouest, c'est vraiment Bruxelles qui a été un appel du cœur.
Alors, comment est venu le déclic du podcast, Pierre-Étienne Wilbert? C'est vraiment le confinement, comme l'expliquait Delphine tout à l'heure, qui vous a mené au podcast?
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que, donc, comme je suis auteur-scénariste, le quotidien d'un auteur-scénariste, c'est de développer ses projets d'écriture, soit quand on a été engagé pour les faire, soit en prévision de pouvoir les vendre, ce qu'on appelle en spéculation. Quand le confinement est arrivé, tous les projets ont été stoppés. Tout était arrêté, toutes les inconnues étaient là sur les éventuels tournages ou sur les éventuelles même projections de création, de production théâtrale. Et pour ma part, il y avait un ressenti assez désagréable de ce que je percevais dans la forme que prenaient les mesures. C'est-à-dire que des mesures sanitaires, c'est une chose, mais pour moi, il y avait un manque d'accompagnement dans la bienveillance, de pouvoir dire... Alors attention, on va prendre des mesures, mais c'est temporaire. Ce sont des mesures temporaires, ne vous inquiétez pas. Essayez de faire attention les uns aux autres. Et j'y ai vu au contraire quelque chose qui surfait sur, tiens, on peut faire peur un peu plus. Et pour moi, dans mon analyse du monde. Et si j'écris des pièces de théâtre, si j'écris des histoires, c'est beaucoup pour re-questionner la liberté de l'individu au sein du groupe, au sein d'une société, au sein du monde. Et j'ai vu un danger à ce niveau-là. Donc, quand je vois un danger, moi, je n'ai pas beaucoup d'autres outils que dire « il faut écrire une histoire ». Et s'il faut écrire une histoire, ok, mais si on est confiné et qu'on ne peut pas sortir, si je fais une pièce de théâtre, bon, j'ai pas d'acteurs qui sont confinés. Si je me lance dans l'écriture d'une série audiovisuelle, l'inertie est telle de la production que peut-être dans 3 ans, on aura l'histoire. Et moi, ce que je veux, c'est donner une histoire à entendre qui résonne avec des questions d'actualité vraiment très, très, très actuelles. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, je me suis dit, il me reste, dans ce cas-là, la voix, le micro, le podcast, et renouer par la même avec mes origines d'acteur que j'avais, pour le coup, mises de côté. J'ai vraiment concentré tout mon temps sur l'écriture et sur la mise en scène pendant les 20 dernières années. Et je renoue dans ce cas-là avec le jeu d'acteur. Et on va créer une histoire pour essayer de la livrer dans une immédiateté par rapport à l'actualité.
Alors, n'en dites pas plus. On va écouter tout de suite le teaser de Global 404. Et on se retrouvera après pour parler du podcast, puisqu'on est là pour ça, pour parler de ce podcast.
Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu.
Tu perds ton temps.
Non, je sais que c'est possible.
Même dans les labos équipés, ils n'ont pas encore réussi à créer une IA autonome non programmée. Alors toi, avec tes antiquités, tu vas y réussir.
J'ai les symptômes, je crois. Vaut mieux pas que vous entriez.
Ah ouais? Je croyais que vous étiez qualifié neutre, risque moins.
Je vais aussi apporter un peu de montée à la menthe et aux herbes. Attention, c'est très chaud.
Aux herbes?
Chacun à sa façon, on trouve nos petits espaces de liberté.
C'est pas un drone milice là-bas?
S'il s'approche, reste calme. On lui présente les attestations et ça devrait rouler.
Il nous a pas vus, je crois. Qu'est-ce qu'on fait?
Respire. Tranquille. Souris.
J'ai vachement envie de sourire, tiens.
Global 404 de Pierre-Étienne Vilbert.
On se retrouve avec Pierre-Étienne Vilbert et Delphine Couteau pour parler de Global 404, un podcast. Vous avez entendu le teaser. Maintenant, on va un peu rentrer dans le podcast en tant que tel. C'est de la science-fiction, bien sûr. Le confinement dure beaucoup plus longtemps que prévu. Hein, on est 9 ans après le confinement, hein, c'est ça. Vous nous transportez en 2029. Et alors, votre héros, oui, parlez-nous un peu de votre héros. Il s'appelle Pi. En fait, ce n'est pas son vrai nom.
Grégoire Piton. Personnage que j'imagine comme un vieux roublard de l'informatique qui est entre le programmeur et le hacker, quelque part entre les deux, croisé avec un lanceur d'alerte, ce qu'on découvre plus tard au fil du podcast. Mais voilà, c'est un être qui vit derrière ses écrans, et depuis 9 ans dans cet univers, tout le monde vit derrière ses écrans, sauf que lui, derrière ses écrans, il essaie de traquer les abus de pouvoir, les malversations, les dérèglements du système ou des comportements de certains individus. Voilà, donc il est comme une sorte de justicier numérique de l'ombre.
Et alors, en fait, ce qui se passe dans ce monde-là, hein, puisqu'on le suit, lui, effectivement, pendant les différents épisodes, on se rend compte qu'on ne sort pas beaucoup puisqu'on est confiné, mais il y a une manière de sortir, c'est par le jeu vidéo. Donc, comment est-ce qu'on sort par le jeu vidéo?
L'idée de Global 404, c'est que le jeu vidéo a pris énormément de place, que les citoyens, que les citadins se sont tous résignés derrière leurs écrans, qu'on ne peut plus sortir de manière libre. C'est fini. Il faut avoir des autorisations systématiques.
C'est pas très loin de la réalité, hein.
Alors oui, ça c'est un autre point de vue, on va y venir, mais le fait de pouvoir sortir est conditionné par le fait de consommer, d'utiliser des crédits. Dans cet univers-là, on ne parle plus d'euros, on ne parle plus d'un argent, on parle de crédit, c'est un terme qu'on utilise aussi dans le jeu vidéo lui-même. Et donc le jeu vidéo a pris beaucoup de place, tout simplement parce qu'il y a des championnats, et que les championnats permettent de gagner de nombreux crédits. Et qu'avec des crédits, on peut être en ce cas libre de ses mouvements. Donc il y a vraiment l'idée de deux poids, deux mesures pour avoir sa liberté de mouvement. Plus on a de crédits, plus on est libre. Moins on a de crédits, moins on est libre.
Et alors on est surveillé. Là, il y a des drones qui vous surveillent, qui vous contrôlent, qui vous arrêtent même. Le drone, c'est vraiment c'est le méchant de l'histoire. Hein. Enfin, un des méchants de l'histoire.
Oui, disons que le drone est le bras armé du méchant de l'histoire. Et voilà, c'est un des éléments. L'automatisme des systèmes de surveillance, c'est une des questions qui est évidemment centrale dans Global 404 et qui me taraude moi-même depuis plusieurs années dans certains de mes écrits. Parce que je pense que quand un système devient automatisé pour traiter le vivre ensemble, je doute de sa pertinence et de sa moralité.
Donc vous n'aimez pas les algorithmes non plus alors ?
Non, pas tellement, ouais. Pas tellement. En fait, si on les pense à l'origine pour une intention qui est juste et qui permet d'être plus heureux tous ensemble, pourquoi pas ? Mais quand les objectifs sont conditionnés par la peur et par le fait d'être rassuré d'une peur hypothétique de n'importe quoi, en général, ça ne donne pas un bon mélange pour moi, ça ne donne pas des bonnes solutions. Mais bon, donc, ouais. Global 404 fonctionne effectivement sur cette idée d'une surveillance généralisée, d'une société de la surveillance généralisée, puisque finalement, tout ça, c'est automatisé, ça permet surtout une chose, hein, c'est vraiment dans l'ADN de Global 404, c'est que les gens ne se révoltent plus, aussi parce qu'on empêche toute possibilité de ça.
Ça fait un peu penser à 1984, il y a évidemment des éléments qui y ressemblent. Mais il y a un élément intéressant dans votre personnage de Pi, c'est qu'il essaye de mettre au point Cyan, hein, une espèce d'intelligence artificielle quand même positive. Là.
Exactement, c'est-à-dire que le démarrage de la série se fait avec la découverte de Pi, qui en fait travaille depuis des années à la création d'une intelligence artificielle qui aurait une pensée autonome. C'est un élément très important, puisque justement ça va à l'encontre de l'algorithme de base, on pourrait dire, qui lui ne serait que quelque chose qui va chercher comme un bon chien va quelque part, et j'ai compris, je ramène l'os. Une intelligence artificielle à pensée autonome dans cet univers, c'est une forme d'intelligence supérieure qui pourrait croiser, comprendre et déduire et être un allié dans les recherches que fait Pi sur le réseau pour traquer les injustices, les abus de pouvoir, les dérèglements du système. Parce que un des grands problèmes mis en avant en 2029 dans Global 404, mais qu'on trouve déjà en 2020 à notre époque, c'est le problème de l'information, de la qualité de l'information et, par votre conséquence en version négative, de la désinformation. Parce que trop d'informations tue l'information et trop de désinformation fait un effet dévastateur. C'est-à-dire que si on ne peut plus offrir sa confiance à l'information qu'on reçoit, à la longue, on ne croit plus rien. Et alors, on reste tout à fait tous sceptiques. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui attaque le vivre ensemble, notre lien ensemble, qu'est-ce qui fait société.
Est-ce que la pensée autonome, et c'est... Ce robot autonome, Cyan, cette intelligence artificielle autonome, est-ce que c'est le salut ? Est-ce que c'est l'espoir ? Est-ce que c'est la vision entre le blanc et le noir ? Hein, de côté, il y a le Cerbère noir et Cyan blanc, c'est ça qu'on peut dire ?
C'est pas aussi manichéen, à mon avis, pour moi. Je pense que l'histoire essaye de... Enfin, comme toute fiction, j'essaie de poser un questionnement, d'ouvrir le questionnement là-dessus. C'est plutôt de se dire... ce que fait ce personnage, ce créateur qui est un peu comme une sorte de Frankenstein des temps modernes, en créant cette intelligence artificielle qui va se mettre en branle dès le premier épisode, c'est plutôt de questionner quelle est l'intention que vous mettez dans ce que vous faites avec votre technologie. Ce n'est pas du tout la question de balayer les technologies, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et comment ça fonctionne, et quelles en sont les portées et les conséquences.
Cyan, en tout cas, dans le personnage de l'intelligence artificielle, c'est surtout pas de prôner l'idée que c'est la solution pour le futur et que l'intelligence artificielle va résoudre les problèmes des individus. Et au contraire, c'est bien. Juste, Cyan, elle pointe juste, elle a une sensibilité. Il se trouve qu'elle va aiguiller Pi dans son aventure pour l'aider à voir justement tout le potentiel chez les humains et toute la force que les humains peuvent avoir entre eux.
C'est plutôt un compagnon, finalement.
On peut comparer à K2000, d'ailleurs.
Voilà.
Oui.
Ça fait partie d'une culture aussi, pour moi, de cette période dans laquelle on a baigné. C'est-à-dire d'avoir connu, dans les années 80, une informatique assez innocente, assez gentille, qui ne pouvait pas vraiment faire de mal. Et donc, dans les références, on peut avoir... donc K2000, plutôt années 90, mais on a aussi Trône, qui est pour le coup une intelligence beaucoup moins sympathique mais on a aussi cette entrée dans ce monde-là, donc l'univers est aussi un peu ça. Mais ce que je voulais ajouter sur l'intelligence artificielle, c'est aussi un élément symbolique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qu'est Siam, justement, qui est une intelligence artificielle à pensée autonome, puis la conçoit comme étant une entité qui veut et qui peut être libre. Ça, c'est un élément crucial. Mmh. Avec une mission, trouver la vérité dans le flot d'informations existantes. Ce qui fait que l'analogie qui existe dans cette histoire et qui est sciemment posée là, c'est que ce que fait Siam, c'est qu'elle va chercher où est la vérité. Elle cherche constamment ça, qu'est-ce qui est vrai. Et en cherchant ce qui est vrai, elle trouve aussi ce qui est beau, elle s'émerveille, elle découvre des choses sur le monde. Et ça, pour moi, c'est un parallèle pour l'être humain. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle-là, elle donne une leçon à nous autres humains de dire « Allez chercher la vérité aussi, allez creuser, allez essayer de comprendre, émerveillez-vous à nouveau, comme cette machine peut le faire. »
Quand je vous écoute, ça me fait penser un peu à Rousseau qui dit que l'homme est foncièrement bon. Est-ce que l'homme est vraiment foncièrement bon et est-ce que la machine est foncièrement mauvaise? Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué que cela? Là, on a l'impression de dire, de toute façon, l'homme ne peut faire que des bonnes choses s'il décide lui-même en conscience. Ce n'est pas toujours le cas.
Ben oui, non, mais la réponse est dans la question. C'est-à-dire, il faut pouvoir décider en conscience. C'est-à-dire que ce qui va faire le bien, ça va être le fait de se dire, je sais quelle intention je mets là-dedans. Ce qui va créer, entre guillemets, le plus détestable, le plus dommageable, c'est le fait de faire les choses par automatisme, le fait de ne pas se mettre à être conscient dans les choses qu'on fait, ou à ne voir que son petit intérêt. Alors qu'en fait, on devrait être beaucoup plus conscient dans ce qu'on fait en se disant, oui, si je fais ça ou si je tire ce fil, ça va avoir des conséquences là, 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 là et là. Est-ce qu'elles vont être positives ou négatives? Donc ça veut dire ouvrir les yeux sur la portée de ses actions. Si on ouvre les yeux sur la portée de ses actions, il y a énormément d'actions qui seraient neutralisées, où on se dirait non, ça je ne vais pas faire ça, ce n'est pas un choix juste, ce n'est pas moral.
Donc il y a 12 épisodes d'environ 12 minutes, hein. C'est une première saison, vous comptez en faire une seconde?
Oui, au moins une seconde.
Et l'idée c'est que vous avez fait progresser l'histoire et le scénario, et vous demandez aussi à vos auditeurs de participer en quelque sorte.
Alors, là, c'est plutôt l'aspect participatif sur le fait d'écrire cette saison 2. Oui, effectivement. C'est peut-être un aspect qu'on va évoquer si on veut évoquer la question de la production.
Mais c'est allons-y.
Le fait d'avoir eu la nécessité d'écrire cette histoire, parce que c'est vraiment de là d'où partent les histoires. Il y a une nécessité à dire quelque chose, à partager un point de vue sur le monde. Ça a toujours été comme ça que j'écris. Donc, parfois, cette nécessité fait qu'on n'est pas toujours dans une temporalité pour avoir des aides, des subsides pour créer un dossier qui rentrerait dans les cases attendues pour pouvoir trouver le financement. Donc on est des fois obligé de faire en mode, on va dire, jungle, et un peu avec le couteau entre les dents, et se dire, bon, il va falloir le faire, mais on ne sait pas comment on va le faire. Et c'est ce qui a été une des raisons pour lesquelles je me suis attribué le rôle principal. C'est-à-dire que je me suis dit, on est en confinement, je ne vais pas solliciter un acteur pour un rôle principal alors que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir le solliciter, je vais prendre la plus grande partition et je vais demander à des amis acteurs de bien vouloir se fédérer à moi ponctuellement parce que leur temps est précieux et je ne peux pas leur en abuser. Et on va essayer de faire ça avec nos moyens de bord. Ce qui fait que la saison 1 a été faite avec des moyens très, 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 très petits et que pour faire une belle saison 2, dans de plus belles conditions, eh bien, on souhaiterait avoir le soutien des auditeurs, ça s'y prêterait si le cœur leur rend du coup.
Je vais poser la question à la productrice. Ça coûte combien de faire une saison comme ça de 12 épisodes? C'est un investissement de combien d'euros?
Je pense qu'idéalement, il faudrait au minimum 50 000 euros pour pouvoir payer tout le monde. Là, on a une équipe, on est quasi 14, voilà. Après, il y a sans compter les personnes qui nous ont aidés pour le générique, il y a toujours des petits sons à enregistrer, à créer.
Bien sûr.
Donc, sur un projet comme ça, le plus important, en fait, c'est pas tant le temps de réalisation, c'est le temps de montage et le mixage. Donc, il y a un travail énorme après, en fait.
Ça a pris combien de temps en tout, entre le moment du début de l'écriture, donc au début du confinement, et le lancement du podcast?
Eh bien, à peu près, on peut dire 7 mois. C'est-à-dire que je dirais que fin mars, l'idée est venue comme une fulgurance et fin mai, tout était écrit. Et début juin, on a réalisé ce qu'on a pu avec les acteurs. Voilà.
Et c'était très beau parce qu'on a eu... il y avait le moment où l'écriture a été terminée, le scénario était là, et où on a pu envoyer aux acteurs pour leur proposer de participer, en sachant qu'on n'avait pas des conditions professionnelles à leur proposer pour ce travail. Donc, il fallait qu'ils aient envie. Et c'était beau de voir la réaction des uns des autres, de dire « mais moi, je veux en être ». Mmh. Et donc là, on a fédéré une équipe. Et ce moment-là est un moment fort quand même dans le projet.
Et donc finalement, la deuxième vague sera la deuxième saison. Hein, et s'il y a une troisième vague, ce sera la troisième saison, etc. Et vous avez même décidé de faire un spin-off avec une espèce de personnage, enfin j'appelle ça un personnage, il s'appelle Les Fils de la Force. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
En fait, le spin-off, il est venu à moi parce que j'ai eu tout simplement un appel à projet d'une autre radio française au moment où j'écrivais justement Global 454. Et ça m'a inspiré cette idée-là qui en fait se place dans un univers. En fait, c'est un peu une tendance que j'ai dans mon écriture. Je ne crée pas seulement des histoires, je crée des univers. Très vite, ils peuvent s'étendre, des ramifications, ça se connecte. Donc, ce spin-off, il est écrit. C'est un épisode de quinzaine de minutes et qui pourrait exister dans une temporalité, on pourrait dire, je peux même la préciser, c'est même 2 ans avant que Global 404 commence. Ça se passe 2 ans avant et on comprend l'origine de ce mouvement que sont les Fils de la Force, dont on parle dans Global 404 et qui est très important, et on va avoir cet élément qui arrive.
Et qui sera certainement très important dans la saison 2.
Tout à fait.
Ah, quel suspense. Et pas de spoiler, hein, évidemment. Alors, une dernière question sur le podcast en tant que tel. Global 404, l'explication du titre. On connaît l'erreur 404.
Voilà,
Global 404, c'est quoi ?
Exactement. Bah, c'est la réponse est dans l'épisode 4. Mais
oui, mais sans trop en dire, mais allez-y. Bah,
disons, oui, c'est vraiment l'erreur 404 et l'erreur la plus courante qu'on peut avoir sur Internet, sur le réseau. Et l'erreur 404, c'est souvent quand on arrive sur une page et que le site a disparu. Mais en fait, la définition de l'erreur 404, si on cherche dans le dictionnaire des définitions d'erreur, c'est lien rompu. Et pour ma part, la vraie épidémie mortelle, c'est ça. C'est la perte globale des liens entre nous tous.
De manière générale, Pierre-Étienne Wilbert, vous qui êtes photographe, metteur en scène, auteur, scénariste, est-ce que vous voyez aujourd'hui d'un autre œil tout ce que vous avez créé avant et en vous disant, tiens, je pourrais en faire des versions en podcast, des versions sonores? Est-ce que vous faites l'exercice à l'envers?
Oui, alors disons qu'encore une fois, comme les choses fonctionnent par univers, il y a des ponts. Donc, en l'occurrence, la résonance qui a amené à Global 404, de ce que je voyais à l'extérieur, était déjà en écho à une pièce que j'avais écrite 15 ans auparavant, qui était effectivement une pièce vraiment dystopique dans un futur vraiment lointain et vraiment noir, tout à fait en raccord avec 1984 ou Le Meilleur des Mondes. Et donc, ce chemin-là pourrait être fait dans l'autre sens, effectivement. Surtout que beaucoup de mes lecteurs ou de mes spectateurs m'ont souvent dit que mon écriture avait quelque chose de cinématographique. Mmh. Cinématographique dans un sens où il y a un lyrisme, il y a une poésie, mais elle reste accessible. Ou parfois, c'est une poésie sur un langage qui est courant en apparence, mais où on remet de la conscience dans les mots du quotidien.
Ouais, vous avez beaucoup joué sur l'image, hein, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez écrire avec des images. Vous avez même fait une petite vidéo, carrément, ça s'appelle « Brief Moment of Clarity ». Et l'idée, vous écrivez à partir d'images, là, c'est d'images vidéo, hein, et vous créez une histoire à partir de ces images. Et donc, le parallèle avec le son, ça pourrait être peut-être une fiction encore plus sonore, peut-être moins jouée. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses-là? Parce que finalement, le son, ça permet tout, hein.
Le son permet tout. Et si vous voulez, c'est ma première expérience dans la réalisation, et même dans le montage et mixage, puisque je me suis aussi attribué ces rôles-là que j'ai découverts et qui sont fascinants en soi. C'est vrai que dans le monde audiovisuel dont j'étais plus proche, on va dire, il y a quelques mois, j'avais déjà une expérience en tant que réalisateur audiovisuel, on a coutume de dire qu'une image qui n'est pas forcément parfaite, ce n'est pas grave tant que le son est vraiment bon et il est vraiment là. Donc c'est clair que le son, on est censé l'oublier, mais s'il y a un défaut à l'intérieur, ça saute aux oreilles, quoi. Mmh. C'est clair que c'est un élément très important. Moi, je suis moi-même mélomane, pas musicien, ma foi, mais vraiment mélomane est très sensible à ça. Donc, c'est un élément qui risque de prendre de l'importance dans mon existence, le son. L'imaginaire, encore une fois, que propose le son est quelque chose qui, moi, me plaît particulièrement. Ouais,
surtout quand il n'y a pas d'image, hein, parce que vous n'imposez aucune image avec votre son. C'est ça. Oui. Donc, pour la saison 2, vous comptez sur l'aspect participatif, mais aussi sur les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En tout cas, on n'est plus légitime maintenant que la saison 1 existe. On est en train de constituer un public qui va suivre, qui commence à... Là, ça fait une dizaine de jours que le podcast est en ligne. On va être beaucoup plus légitime pour aller chercher des subsides et dire, voilà, on a créé ça, on est capable de faire ça. Faites-nous confiance. Et c'est logique aussi pour que des pouvoirs publics accordent une aide financière à une équipe d'artistes. Plus on a des choses à proposer au départ et qui nous présentent, qui racontent ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire, un peu l'univers artistique justement qui a été développé par Pierre-Étienne, plus on est en mesure d'obtenir ces aides. Quoi. Donc, moi, je crois beaucoup au modèle de financement croisé et je crois vraiment que c'est l'avenir pour les projets artistiques, de ne pas aller chercher que des aides publiques, mais aussi de solliciter le public, aussi de solliciter les citoyens, parce que c'est eux aussi qui choisissent ceux qu'ils ont envie comme culture. C'est important d'impliquer chacun, et puis d'aller chercher, pourquoi pas, du mécénat aussi. C'est une autre forme de financement, donc du sponsoring des entreprises qui seraient intéressées aussi pour s'investir. Voilà, je crois que plus on va aller chercher de l'aide à tous les niveaux, donc il y a évidemment cette page Tipeee, qu'on a créé, qui est vraiment la première porte pour un citoyen qui voudrait aider, qui a découvert le podcast et qui veut aider.
Ouais. Vous pouvez donner les coordonnées, si vous voulez, comme ça, ce sera plus clair, si vous les connaissez par cœur.
Vous me posez la colle, évidemment, bien sûr, attendez.
Pendant que vous cherchez, j'avais une question pour vous, Pierre-Étienne, une dernière question. C'est donc, sur votre site internet, vous dites que vous jouez sur le texte, l'image et le jeu. Où est le son et le podcast maintenant dans ces trois ensembles de texte, image et jeu? Est-ce que vous allez rajouter un quatrième pilier?
En fait, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément le son dans cet intitulé, cet intitulé-là, mais pour moi, dans le texte, il y a le son. Le texte évoque le texte écrit, certes, mais comme je viens encore une fois du théâtre, le texte, il doit pouvoir être dit une pièce de théâtre. Il doit être lu à haute voix pour être perçu. Donc, en fait, quand j'écris texte, pour moi, je pense que c'est un texte qui est forcément oral, qui n'est pas fait pour être juste là. Même quand pour un scénario, c'est pas très sympa un scénario à lire, c'est pas une matière littéraire très chouette. Il faut vraiment se projeter dedans, donc il faut pouvoir la formuler à voix haute ou imaginer ce qu'il y aurait ça, il y aurait ça. Pour répondre à votre question, donc, l'adresse exacte du site Tipeee pour soutenir cette écriture et toutes les autres, c'est fr.tipeee.com/pe-vilbert. Et de toute façon, sur le site de Ocha où il y a le podcast, vous retrouverez toujours en dessous, soutenez-nous, le lien qui vous y amène.
Voilà, et Ocha, donc, c'est effectivement un des gros sites français hébergeurs de podcasts, et c'est Ocha, A-U-S-H-A. Merci à tous les deux, Pierre-Étienne et Delphine. Et alors, on attend la saison 2 et d'autres créations encore. À bientôt à tous les deux. Au revoir.
Merci.